Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc même si nous ne faisons que la mémoire aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame, de la nativité de Notre-Dame, fête appelée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aussi Notre-Dame Angevine, parce que c'est dans le diocèse d'Angers, par Saint-Maurice, évêque d'Angers, que Notre-Dame a choisi de révéler à l'Église la date de sa naissance pour la fêter. Au sanctuaire de Béhuard, qui a été fondé par Saint-Maurice lui-même, et qui est étroitement lié au sanctuaire du marié, il y a un vitrail dans la nef, côté évangile, qui montre les patriarches de l'Ancien Testament guettant la venue de cette femme mystérieuse prophétisée déjà à Adam et Ève le jour où ils étaient chassés du paradis. Quand Dieu leur a dit, la femme viendra écraser la tête du serpent. Et on peut voir dans ce vitrail le roi David, qui était aussi un prophète, puis quelques autres prophètes, qui regardent au loin, et puis on voit une femme, la très sainte Vierge Marie, qui arrive toute radieuse de l'autre côté d'une colline. Et en bas, il est écrit « Quae est ista ?»« Quelle est celle-ci ?» C'est une citation du Cantique des Cantiques. « Quelle est celle-ci qui monte du désert ?» comme une colonne de fumée exhalant la myrrhe et l'encens. Ce vitrail n'a pas un très grand intérêt artistique. C'est plutôt dans le style 19e, un peu naïf, mais il exprime une idée très profonde. C'est que l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, tend vers l'arrivée de la femme qui écrasera la tête du démon par son fils, le Messie. Saint Vincent Ferrier avait une expression très pittoresque. Il disait que les Écritures étaient grosses de la très sainte Vierge Marie, comme les Écritures devaient enfanter un jour la Sainte Vierge. Elle a été préfigurée, annoncée, ainsi que tous ses privilèges et le rôle qu'elle allait jouer dans l'œuvre de la rédemption. En voyant quelques-unes de ces figures, évidemment pas toutes, mais quelques-unes. Donc d'abord par rapport au privilège de la très sainte Vierge Marie. Et le premier, son immaculée conception, le fait qu'elle a été conçue sans péché. Cela a été préfiguré déjà par Ève elle-même, qui a été créée immaculée et sans péché. Mais regardons plutôt l'image, la figure dans la toison de Gédéon. Gédéon était un juge d'Israël choisi pour libérer le peuple des mains des Madianites qui les opprimaient. Et avant de partir au combat, il a voulu avoir un signe. Je vous lis dans le livre des Juges. Gédéon dit à Dieu, « Si vous voulez sauver Israël par ma main, comme vous l'avez dit, voici, je mettrai une toison de laine par terre. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le sol alentour reste sec, je connaîtrai que vous délivrerez Israël par ma main, comme vous l'avez dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, s'étant levé de bon matin, il pressa le toison et en fit sortir la rosée, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que votre colère ne s'enflamme pas contre moi, que je puisse encore parler une fois. Je voudrais une fois encore seulement faire une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que la rosée tombe sur tout le sol alentour. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le sol se couvrit de rosée. Les pères de l'Église, dès le début, ont vu dans cette toison de Gédéon une figure de la très sainte Vierge Marie. La toison qui est pleine de rosée, alors que tout autour est sec, c'est la Sainte Vierge qui est la seule qui est pleine de grâce. Et la toison sèche, alors que tout est mouillé autour, ça montre que la Sainte Vierge est la seule qui n'a pas été touchée par le péché, alors que toute l'humanité autour d'elle est née et conçue dans le péché. Voyons maintenant sa virginité perpétuelle. Donc le fait que la Sainte Vierge a été vierge avant, pendant et après sa naissance. Après la naissance de Jésus, plutôt. Il y a la figure du buisson ardent vu par Moïse dans le désert. Moïse aussi avait une mission de libération. Il devait libérer le peuple hébreu de l'esclavage des Égyptiens. Et pour lui confier cette mission, Dieu envoie un ange qui apparaît à Moïse dans une flamme de feu. C'est dans le livre de l'Exode. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut en flamme de feu du milieu du buisson. Et Moïse vit, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour considérer cette grande vision, et voir pourquoi le buisson ne se consume point. » Yahvé vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc ce buisson ardent, cette terre sainte, c'est la Sainte Vierge. Cette flamme qui brûlait au milieu du buisson, sans endommager en aucune manière ses feuilles et ses fleurs, c'est le Verbe éternel qui s'est incarné dans le sein de la Vierge, sans porter atteinte à sa virginité. Elle devient mère tout en restant vierge. Et puis un troisième privilège de la Sainte Vierge, elle est la mère de Dieu, sa maternité divine. Et là, cela a été préfiguré par l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance. Alors, il ne faut pas confondre avec l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, ce grand bateau, qui était plutôt une figure de l'Église, seul moyen de salut. L'Arche de l'Alliance était une sorte de caisse que Moïse a fait faire, a fait construire, sur l'ordre de Dieu, pour y mettre trois choses. Il y avait un vase contenant de la manne, ce pain mystérieux descendu du ciel pour nourrir les Hébreux dans le désert jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Il y avait les tables de la loi que Moïse a reçues de Dieu et le bâton d'Aaron qui avait fleuri miraculeusement pour montrer qu'Aaron était choisi par Dieu pour être le grand prêtre. Et alors, la comparaison avec la très sainte Vierge Marie est évidente. Elle est l'arche de la nouvelle alliance, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Elle portait dans son sein Jésus, qui est le pain de vie, qui nous soutient dans nos épreuves jusqu'à notre entrée dans la terre promise, c'est-à-dire le ciel. Jésus nous a apporté aussi une nouvelle loi. C'est Jésus qui est une loi vivante, la nouvelle loi de la grâce et de l'amour. Et puis Jésus est aussi le grand prêtre éternel, infiniment plus parfait qu'Aaron. Donc voilà pour les figures des privilèges de la Sainte Vierge. Voyons maintenant son rôle dans la rédemption. Elle est d'abord co-rédemptrice. La très sainte Vierge Marie a été l'associée de Jésus pour nous sauver. Donc, en nous donnant Jésus, notre Sauveur, elle nous a libérés du péché et du démon. Toutes les femmes qui ont joué un rôle pour libérer le peuple hébreu dans l'Ancien Testament sont une figure de la Sainte Vierge. Mais voyons une qui est un peu moins connue, c'est Jaël. Jaël, ça se passait aussi au temps des juges. Il y avait un juge qui s'appelait Barak qui mettait en fuite Sisara, le général de l'armée des Cananéens qui avait persécuté les Juifs. Donc Barak mettait en fuite Sisara et Sisara, qui fuyait, est venu se réfugier dans la tente de Jaël. Et Jaël, elle a attendu que Sisara, qui était épuisé, s'endort dans sa tente. Et prenant un pieu, un piquet de la tente et un marteau, elle avait enfoncé le pieu dans la tempe de Sisara pour clouer sa tête au sol, pour le tuer. Et c'était la victoire complète. Donc Barak, le juge, c'est Jésus qui est victorieux sur le démon. Et Jaël l'aide à achever sa victoire en écrasant la tête du démon. Il y a aussi Judith, la veuve de Béthulie. C'est à l'époque de la fin du royaume de Juda, quand Holoferne, le général du roi de Ninive, Nabucodonosor, assiégeait la ville. Elle a réussi à entrer dans son camp et lui couper la tête dans son sommeil. Donc elle a ramené sa tête dans la ville, à Béthulie, pour montrer aux autres juifs. Et c'était des cris de joie. Ils savaient qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Et le matin, quand la mort d'Holoferne a été découverte dans le camp ennemi, c'était la panique et les juifs ont pu vaincre l'armée qui était 10 fois, peut-être même plus nombreux que les juifs, sans aucun problème. Et depuis le début de l'Église, les pères de l'Église ont vu en Judith une image de la très sainte Vierge Marie qui écrase la tête du démon. Mais le rôle de la sainte Vierge ne s'arrête pas dans la co-rédemption. Elle n'est pas uniquement co-rédemptrice, elle n'a pas uniquement coopéré à notre rédemption en aidant Jésus dans sa mission, mais son rôle continue aujourd'hui. Elle a un rôle à jouer dans le ciel maintenant. Elle distribue les grâces méritées avec Jésus. Et comme image de cela, voyons une image qui est... Elle est connue parce qu'elle se trouve dans les litanies de la très sainte Vierge Marie, les litanies de Lorette que nous chantons le samedi soir ici. Mais peut-être on ne connaît pas toute la profondeur de sa signification. C'est la tour d'ivoire. Tour d'ivoire, nous disons ça dans la litanie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une image qui vient du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre dans la Bible, c'est une sorte de poème mystique où deux époux se font l'éloge l'un à l'autre. Et en fait, c'est une sorte de dialogue entre le Christ et l'Église. Le Christ qui est l'époux de l'Église, de son corps mystique, puis l'Église qui est l'épouse de Jésus. Et à un moment, l'époux, Jésus, fait l'éloge de son épouse en disant, comme elle est belle, son cou est comme une tour d'ivoire. Et c'est une image très riche. Donc déjà, la blancheur de l'ivoire, signifie la pureté virginale de la très sainte Vierge Marie, et puis le fait qu'elle soit immaculée et sans péché. L'idée de tour évoque l'idée de refuge, elle est le refuge des pécheurs, mais il y a quelque chose de plus profond. Jésus fait l'éloge de son épouse, l'Église, qui est aussi son corps mystique. Et il dit que son cou est une tour d'ivoire. Si la très sainte Vierge Marie est cette tour d'ivoire, elle est comme le cou du corps mystique. Jésus est la tête et elle est le cou, parce que toute grâce passe par elle dans tout le reste du corps. Il y a un seul médiateur, une seule tête, Jésus, mais la très sainte Vierge Marie est notre médiatrice auprès de notre médiateur. Dans le plan de Dieu, tout doit passer par elle. Sans elle, les grâces méritées par notre chef ne sont pas données à ses membres. Il y aurait des douzaines et des douzaines d'autres figures à citer. On ne peut pas tout citer. Saint Jean Chrysostome, si je ne me trompe pas, c'est lui qui dit que chaque page de l'Ancien Testament parle de la très sainte Vierge Marie. Il y a beaucoup de belles choses dans l'histoire sainte qui sont malheureusement complètement inconnues. Et en parlant avec des fidèles, parfois on se rend compte que c'est les enfants qui connaissent l'histoire sainte beaucoup mieux que leurs parents. Il y a beaucoup d'adultes qui ne connaissent pas ces choses. Et donc si c'est le cas, intéressez-vous à ce que vos enfants voient dans l'histoire sainte à l'école et parlez-en avec eux. Et si vous n'avez pas encore choisi une lecture spirituelle pour cette nouvelle année scolaire qui commence, prenez des livres de Don de Montléon qui donne les commentaires de l'Écriture, qui donne le sens mystique de l'Ancien Testament. Ou bien n'importe quel commentaire des Pères de l'Église. Voilà, et que Notre-Dame nous aide à découvrir le sens caché derrière tous ces récits. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.